Bonjour à tous. Nous allons commencer par le premier texte. Il sera pris dans Ésaïe au chapitre 43, verset 25. « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dans Matthieu 6, au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dans Matthieu 18, versets 21 et 22, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et dans Colossiens, au chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dès les débuts de l'humanité, les relations humaines sont marquées par des blessures dues au comportement volontaire ou involontaire, soit aux dommages collatéraux résultant de conflits personnels ou communautaires. Plusieurs réactions peuvent animer la personne blessée et ses proches : la violence, la haine, la résignation ou le pardon. Il convient quand même de distinguer le pardon et l'excuse. L'excuse tient compte des conditions dans lesquelles l'offense a été commise. Le pardon reconnaît que l'autre est responsable de son acte, mais lui donne une raison d'espérer. Le pardon coûte toujours quelque chose, car il n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais un acte de volonté d'obéir à l'amour de Dieu pour tous les hommes. S'il est difficile de dominer nos émotions, en revanche, nous pouvons contrôler nos décisions. Le rétablissement d'une relation n'est pas le pardon lui-même, mais une conséquence souhaitable. Il suffit de regarder ce qui s'est passé après les guerres, les génocides, à la fin de l'apartheid, pour comprendre que le pardon est indispensable dans nos relations avec les autres, entre les sociétés qu'avec nous-mêmes. La Bible affirme qu'il y a une interdépendance entre notre relation avec Dieu et nos relations avec nos contemporains. Ce que nous faisons aux autres, la Bible affirme que nous le faisons à Jésus-Christ. La Bible affirme que le pardon a pour point de départ l'amour que Dieu nous porte. Nous verrons les diverses causes de blessures, notre attitude vis-à-vis du pardon et ensuite la restauration par le pardon. Les causes de nos souffrances. Alors, il y a les blessures déjà causées par la famille. Malgré nous, nous reproduisons les comportements négatifs de nos parents ou de ceux qui nous ont éduqués jusqu'à ce que nous les reconnaissions et que nous nous confrontions à eux. Samuel a été éduqué par le sacrificateur Élie qui laissait ses enfants désobéir à Dieu. Il fera exactement la même chose avec les siens, ce qui contribuera au rejet de Dieu par le peuple. Nous savons peu de choses sur ce que nos parents ont vécu. Pourtant, ils ont eu la responsabilité de gérer ou de ne pas gérer les blessures de leur passé qui remontent pour certaines jusqu'à leur enfance, de manière à ne pas nous les infliger. En tant qu'enfants, nous sommes ni responsables des blessures qu'ils nous ont causées, ni complices de leurs défaillances quand nous étions sous leur autorité. Les blessures entre frères et sœurs, entre conjoints, sont aussi destructrices que celles causées par nos parents. Les blessures de l'Église. Très tôt, les églises ont été touchées par le comportement destructeur tant de certains responsables que de certains de ses membres, comme l'écrivent Paul et Jean à leurs correspondants. Autoritarisme, exercice d'un ministère avec négligence, humiliation, légalisme, fanatisme, persécution, contestation permanente ont été un peu la marque de beaucoup d'églises. Lorsque l'autorité de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit sont remplacés par des traditions, des préceptes, des règles ou par l'influence d'un homme, cela conduit à désobéir à Dieu et donc ça implique faire souffrir et souffrir. Ces comportements, bien que critiqués par les prophètes, Jésus-Christ et les apôtres, se retrouvent dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à maintenant. Parfois, révoltés contre Dieu et l'institution religieuse, plus ou moins déçus ou blessés par d'autres chrétiens, nous sommes réticents à la perspective d'avoir à nouveau des relations au sein d'une Église. Ces blessures nous appartiennent et il est de notre responsabilité de nous en libérer, car nous sommes ce que nous faisons maintenant et non ce que l'on a fait de nous. Les blessures causées par l'Église doivent nous encourager à nous confier en Dieu et à être toujours plus proches de lui au lieu de nous attacher ou nous identifier à une personne ou à une communauté. Les différentes blessures, elles sont nombreuses mais peuvent être regroupées en trois catégories principales. Les blessures par négligence, par rejet, abandon, trahison et celles par violence, oppression. Durant notre vie, nous sommes plus ou moins confrontés à ces trois types de blessures, mais il est important de repérer celles qui nous ont fait le plus souffrir, car ce sont elles qui nous influencent le plus. Les blessures par négligence concernent principalement les manques d'autorité adaptés aux circonstances, de présence attentive et bienveillante, d'encouragement, de tendresse, de respect, ainsi que les manques de désapprobation en cas de faute. Acceptons les limites de ceux que nous côtoyons, car ils ne pourront jamais nous offrir ce que Dieu seul peut nous donner. Des personnes ont pu se sentir ou être rejetées, abandonnées, trahies par des paroles ou des comportements négatifs plus ou moins violents. Si nous ne rompons pas leur influence sur nous, ces attitudes revenant régulièrement peuvent gâcher notre vie et générer en nous des blocages psychologiques. Certains d'entre nous, dès leur enfance, ont pu se sentir abusés, humiliés, écrasés, opprimés par des paroles ou des comportements répétés tant par leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs professeurs à l'école. Physiques, psychiques ou spirituelles, ces violences impactent et endommagent les trois dimensions de notre être. La violence subie va installer en nous une image fausse de l'autorité aussi bien humaine que divine, pouvant entraîner une perception négative de nous-mêmes. Cette violence peut susciter en nous un sentiment d'injustice, amenant un désir plus ou moins conscient de rébellion, de vengeance, de domination ou de contrôle des autres. Les souffrances que nous nous infligeons pour surmonter la souffrance ou pour nous endurcir afin de ne plus souffrir, car nous pensons qu'en nous endurcissant face à la méchanceté, elle glissera sur nous, nous nous trompons, car la souffrance continue son travail destructeur, mais nous ne le ressentons plus. Alors, quelques conséquences des blessures causées par le rejet. La personne qui se sent ni acceptée ni accueillie aura tendance à se demander les raisons de son existence. La personne se dévalorise sans cesse et a de la difficulté à croire que les gens puissent l'aimer pour qui elle est. Plus l'individu se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter et cherche sans arrêt l'approbation des autres. Le masque que l'humain se crée pour tenter de cacher sa blessure due à l'abandon et celui du dépendant. Le dépendant croit qu'il ne peut arriver à rien tout seul et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour l'encourager et l'aider. Ce sentiment conduit à chercher sans cesse l'attention des autres. La personne humiliée est hypersensible. La moindre petite chose l'atteint. Par conséquent, elle fait tout pour ne pas blesser les autres. Elle ne réalise pas qu'en tenant compte du comportement des autres, elle ne peut satisfaire ses propres besoins les plus profonds. La force est une caractéristique commune à toutes les personnes ayant une blessure de trahison. Ces interactions avec les autres sont basées sur la force, la domination, la manipulation, voire la séduction, par crainte de revivre la trahison, d'où sa volonté de tout contrôler. Une personne trahie a beaucoup de mal à faire confiance aux autres et a tendance à se protéger pour ne pas montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses sentiments. La personne victime d'injustice se coupe de ses ressentis et de ses émotions, voulant s'épargner la souffrance et les erreurs. Le masque créé pour se protéger est celui de la rigidité. La personne rigide est très sensible intérieurement, mais fait tout pour réprimer ses émotions et ne rien montrer aux autres. Lorsque nous fuyons notre histoire, nous courons de grands risques, car nos souvenirs constituent une des bases de notre identité. L'oubli est un pari que nous faisons tous et qui nous le fait payer très cher. Le prix de l'oubli, c'est une vie de répétition des mêmes comportements qui entraînent les mêmes conséquences. C'est une façon de raconter qu'une partie de soi n'est pas guérie. Pouvons-nous être dépendants de notre vécu pour nous priver de ce que Dieu a fait à la croix, en nous permettant de devenir une nouvelle créature libérée de l'influence de son passé? Maintenant, nous allons voir le pardon. Notre attitude vis-à-vis du pardon. Il y a le mépris du pardon. Le mépris peut se manifester par notre refus de pardonner, de demander pardon, d'accepter le pardon et d'en tirer les conséquences pour notre vie. Bien que Dieu lui ait manifesté de la compassion malgré son crime, Caïn ne lui a pas demandé pardon et finira par se détourner de Dieu. Absalom, n'ayant pas pardonné à son demi-frère le viol de sa sœur, le tuera. Son rejet du pardon de son père va le conduire à provoquer une guerre civile qui entraînera sa mort. Dans certaines familles et certains pays, la transmission de la haine suite à une blessure se fait de génération en génération à l'encontre d'une famille, d'une ethnie ou d'un pays. Fuir la personne qui a blessé ou a été blessée, afin de ne pas lui pardonner ou lui demander pardon, ou expliquer la situation de notre point de vue à d'autres personnes afin de nous faire passer pour la gentille victime, sont des manières de se venger en faisant souffrir un peu plus l'autre. Reprocher aux autres aussi les conséquences de nos faiblesses parce qu'ils en sont les révélateurs et non les auteurs, et refuser de nous pardonner nos erreurs manifeste que nous croyons meilleurs que nous sommes, bien que nous soyons responsables de notre malheur. Et en plus, afin, il y a un semblant de pardon qui est un processus vécu dans la tête, mais dépourvu de toute relation avec le cœur. Ne méprisons pas le pardon de Dieu en refusant de pardonner les autres ou nous-mêmes. Quelle valeur a le sacrifice de Jésus-Christ pour nous si nous refusons de pardonner? La repentance, Dieu nous appelle à la repentance aussi bien un individu qu'une communauté. Le pardon devient efficace quand il y a une prise de conscience de sa faute par l'offenseur et qu'il manifeste son intention de ne plus recommencer. Nous sommes encouragés à nous repentir grâce à la patience et à la bonté de Dieu à notre égard. Si nous voulons que les personnes qui nous ont blessés se repentent, manifestons-leur de la bonté. La repentance et le refus de se repentir ont des conséquences importantes tant sur nous que sur la situation des personnes qui nous sont proches. La repentance de David, des Ninivites, du roi Manassé et de Nabucodonosor montre qu'elle concerne le croyant, même le plus désobéissant, l'incroyant ou une personne atteinte de maladies psychiatriques, et quelle que soit sa position sociale. Et Dieu nous le rappelle tout au long de sa parole. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette affirmation de Dieu ? Ben, si nous voulons que la France s'ouvre à l'amour de Dieu, les chrétiens doivent revenir à Dieu et se détourner de leurs péchés. Dans nos relations avec les autres, si avant de venir au culte, nous avons commis des actes qu'il condamne, Dieu rejette le culte que nous lui rendons, car il ne peut voir le sang, le crime associé au sacrifice. Notre relation avec Dieu est déterminée par notre relation aux autres. Tout ce que nous faisons et ne faisons pas aux autres, c'est à Jésus-Christ que nous le faisons. Et Jésus nous sensibilise à l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis d'une personne qui nous en veut avant de lui rendre un culte. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Veillons à mettre en pratique ce conseil de Jésus-Christ avant de lui rendre un culte. Notre pardon a pour point de départ le pardon de Dieu au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Dans une parabole, Jésus-Christ met en parallèle la remise des dettes et le pardon des péchés. Il veut nous faire comprendre, parmi tous les enseignements que nous pouvons tirer de cette parabole, que seul le pardon librement consenti peut régler une situation. Pardonner sans restriction manifeste notre respect de Dieu. Sinon, comment pourrions-nous pardonner les comportements les plus horribles ? Ne limitons pas la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. En le faisant, nous disons à Dieu que la mort de son Fils n'est pas suffisante, alors qu'il est mort pour tous les péchés, quelle que soit leur gravité. Le chrétien a le ministère de la réconciliation fondé sur le pardon de Dieu. Quand Paul le mentionne, il fait allusion à la réconciliation de l'humanité avec Dieu par l'annonce de l'Évangile. À plus forte raison, ce ministère qui est commun à tous les chrétiens doit-il s'exercer dans la famille et dans l'Église, lieu dans lequel nous sommes censés vivre l'Évangile. Demandons-nous ce qui est le plus important. Gagner une bataille d'amour-propre ou sauver notre relation avec l'autre. Veillons à ce que nos relations aux autres soient fondées non sur nos émotions ou nos sentiments, mais sur l'amour qui vient de Dieu. Jésus élimine ce qui cause notre souffrance, mais dans la plupart des cas, il transforme notre façon d'y faire face pour que nous devenions peu à peu capable d'affronter et de surmonter les situations même les plus destructrices. Jésus lui-même, dans sa vie d'homme, a exprimé des pleurs et des émotions, et nous pouvons donc aussi accepter que Jésus puisse pleurer avec nous et pour nous. Jésus-Christ a porté toutes nos souffrances sur la croix. Déchargeons-nous sur lui de ce qu'il ne veut plus que nous continuions à porter à sa place. Nous allons voir la restauration par le pardon. Si nous voulons être libérés du poids des blessures que les autres nous ont infligées ou que nous nous sommes infligées, nous devons pardonner, être pardonnés et accepter le pardon. Si nous nous sommes détournés ou éloignés de Dieu, quelle qu'en soit la cause, Dieu nous invite à revenir à lui pour recevoir son pardon. Nous avons parfois du mal à accepter son pardon, soit pour nous, car nous voulons par nous-mêmes réparer nos fautes ou nous croire meilleurs que nous sommes, soit pour les autres. Jonas reprochera à Dieu sa bonté envers Ninive. Dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné n'accepte pas la compassion de son père vis-à-vis de son frère cadet repentant. Nous ne pouvons pas acheter le pardon gratuit de Dieu. Il n'est pas une récompense, mais un acte d'amour. Acceptons-le en tant que tel pour nous et pour les autres. Dieu ne nous punit pas selon la gravité de nos péchés dans son amour. Il en assume une partie des conséquences. Le pardon manifeste l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour l'autre et permet de rétablir la communication. Voici comment Paul résume l'attitude d'une personne qui pardonne en prenant l'exemple de Jésus-Christ. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le fait de regarder l'intérêt des autres supérieur au nôtre conduit la personne offensée à prendre les devants pour mettre fin au conflit, à s'humilier et faire la démarche de réconciliation, quoi qu'il lui en coûte. Sur le plan humain, en général, c'est l'offenseur qui fait la démarche de demander pardon. Mais dans l'optique de Dieu, c'est l'offensé et non l'offenseur qui prend l'initiative de pardonner et de restaurer les relations. Expression de l'amour agissant afin de résoudre un conflit qui ne doit être ni évité ni étouffé, le pardon permet le retour à des relations apaisées et non fondées sur un rapport de force et redonne de la valeur aux coupables. Pardonner ou se repentir demande du courage, de la volonté, voire un sacrifice. C'est reconnaître que nous n'avons pas à condamner l'autre. Cela appartient à Dieu, mais à le bénir, ce à quoi nous sommes appelés. Tout ce qui est pardonné ne sera plus utilisé par Dieu pour nous condamner. Faisons de même. Cessons de reprocher à une personne une erreur que nous sommes censés lui avoir pardonnée. Comment se manifestent les conséquences du pardon dans notre vie et dans nos relations aux autres? Le respect, la capacité de l'amour à tout supporter et à pardonner éviteront l'amertume et la rancune. Si le pardon permet le retour de la paix, il n'enlève pas les conséquences de la faute. Si quelqu'un vous crève un œil, vous aurez beau lui pardonner, votre œil restera toujours crevé. Certes, rien ne sera plus comme avant. Chacun vivra avec les cicatrices de ses blessures. Le Christ lui-même est ressorti du tombeau avec les stigmates de sa passion. Le pardon efface la faute ainsi que le poids de la culpabilité. Recevoir le pardon de Dieu ou d'une personne ne doit pas être considéré comme une autorisation de retomber dans les mêmes défaillances et échecs. Le livre des Proverbes dit que celui qui confesse ses fautes et les délaisse trouve de la compassion. Prenons conscience qui est l'agresseur et qui est la victime et n'étendons pas la faute d'une personne au groupe social, ethnique auquel elle appartient. Si nous sous-estimons la souffrance de la personne blessée ou la nôtre, nous risquons de la minimiser dans nos propos et dans notre attitude, ce qui n'aidera pas au pardon et à la réconciliation. C'est en évaluant avec précision la souffrance ressentie par la personne blessée, en prenant son échelle de valeur, qu'une réponse adéquate pourra être apportée. En fonction de la blessure causée, il pourra être plus ou moins difficile de pardonner ou de se faire pardonner. Pardonner nos parents fait partie de l'honneur qui leur est dû. La blessure causée par une personne que nous aimons et celles qui touchent notre dignité seront les plus difficiles à guérir. Remise en cause dans notre être profond, nous aurons besoin de temps et d'attention renouvelées pour reprendre confiance en notre valeur et nous reconstruire. Quand devons-nous pardonner? Immédiatement. Nul ne connaît la durée de sa vie. Jésus-Christ était sur la croix. Étienne subissait la lapidation quand ils ont pardonné. Les chrétiens persécutés pardonnent ceux qui les font souffrir et prient pour eux. Job a été rétabli dans sa santé et a prié pour ses amis parce qu'il avait compris qui était Dieu. Ésaü n'a jamais pardonné son frère. sa colère et sa haine vis-à-vis de son frère ont été apaisées par sa richesse, mais n'ont pas disparu, puisqu'il sera à l'origine du peuple d'Édom, et on voit dans la Bible qu'Édom sera toujours en conflit avec le peuple d'Israël. Pardonner se fait souvent en deux temps. Il y a notre volonté de pardonner, puis le cœur qui pardonne. L'idéal est que tout se passe en même temps. Parfois, il suffira d'attendre un peu, chercher le terrain d'entente et de compréhension pour aborder la question avec un esprit serein. S'il n'y a pas d'accord, il faut simplement accepter la différence de point de vue et pardonner l'autre sans pour autant nous justifier à nos propres yeux. Pourquoi ? Notre attitude vis-à-vis du pardon va déterminer l'attitude de Dieu à notre égard au moment du jugement dernier et va être un révélateur de la place de Dieu dans notre vie et qui il est pour nous. Le psaume 130 dit « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ». D'après vous, où est la place de Dieu dans notre vie quand nous refusons de pardonner ? Si nous voulons guérir de nos blessures, redonnons à Dieu sa juste place. Recevoir le pardon de Dieu nous permet de pardonner à ceux qui nous ont blessés et de supporter leurs faiblesses. Le pardon libère de la haine, de l'amertume, des blessures refoulées et de la colère et amorce le processus de guérison dans la vie de la victime. Après le pardon vient la paix, la consolation, la guérison du corps et de l'âme. L'abandon de toute colère à l'encontre de la personne fautive devrait conduire cette dernière à percevoir la valeur de l'amour dont elle fait l'objet. Le pardon n'est pas un sentiment. Pardonner ne signifie pas faire comme si la blessure n'existait pas, ni refaire confiance, ni minimiser ce qu'a fait la personne ou décharger la personne de leur responsabilité. Le pardon est avant tout une décision d'obéir à Dieu, c'est un choix. Le pardon ne déclare pas l'offenseur juste, mais rend libre celui qui pardonne vis-à-vis de la faute de l'autre. Pardonner, c'est faire l'expérience de la force de l'amour de Dieu. C'est mettre notre cœur en ordre devant Dieu, en laissant notre justice de côté pour laisser la place à celle de Dieu. Le pardon tend à restaurer une relation qui a pu être abîmée, brisée par une ou plusieurs offenses. Il doit être clairement énoncé afin que la personne fautive sache qu'elle est pardonnée. Les phrases telles « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien, laisse tomber, ce n'est pas grave » n'expriment aucun pardon. Alors, comment conclure ? Lorsque nous prenons la scène, nous rappelons la mort de Jésus-Christ. Sa mort est la preuve de l'amour et du pardon de Dieu pour l'humanité. Si difficile que ce soit, nous sommes appelés à amorcer notre processus de guérison et de le faire avec lucidité en nommant la réalité telle qu'elle est. Pardonner nous libère de la faute de la personne qui nous a porté préjudice. Son péché n'est plus notre préoccupation. L'acceptation du pardon nous conduit à faire une rupture définitive avec la cause de notre péché. Pardonner est un style de vie dans lequel nous sommes invités à persévérer. C'est une manière de vivre et de voir les événements comme Jésus-Christ et est une preuve de l'amour que nous avons pour nous et pour les autres. Vivons ce que nous sommes, des enfants de Dieu, capables de pardonner parce qu'ils aiment comme Dieu les aime. Et je vous laisserai une phrase du poète anglais Alexander Pope. C'était un poète catholique, persécuté par les anglicans, et il écrivit « Faire souffrir est humain ». Pardonner est divin.